Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, il est 11h, le Festival d'Avignon se réveille, nous sommes bien installés dans la cour de l'université pendant une heure, c'est des idées sous les platanes. Deuxième semaine de nos retrouvailles quotidiennes sous les platanes de la Faculté des sciences d'Avignon pour cette heure que nous passons à deviser du texte sous tous ses aspects. Alors on a beaucoup parlé de théâtre, on en reparlera, on a parlé de littérature, d'histoire de l'écriture, de diplomatie. Hier, on a discuté des textes qu'on lit, des textes qu'on écrit, qu'on représente, des textes qu'on traduit, des textes qu'on admire, qui nous élèvent ou nous agacent. Aujourd'hui, c'est le texte qu'on met en forme avec Massin, graphiste, typographe, maquettiste. Bonjour Massin. Alors, donc on ne dit pas Robert Massin, on dit Massin. Voilà, on vous appelle.
Écoutez, comme ça. J'ai perdu mon prénom en 1954, ça fait quand même un petit bout de temps.
D'accord.
À l'image de Brassailles, de Picasso, d'Aragon et quelques autres.
Ok, donc je vous appellerai Massin. Alors, vous êtes une figure de l'histoire du livre en France. On vous doit notamment bien des collections qui nous sont très familières. J'en citerai trois qui sont emblématiques, la collection Poésie Poche de Gallimard, la collection Folio et une autre collection de Gallimard, l'Imaginaire. Mais on vous doit aussi des centaines, voire des milliers de couvertures de livres, et pas simplement chez Gallimard. Et ce qu'on vous doit peut-être surtout, c'est une idée du livre, une idée de la mise en page, une idée de la manière dont le texte peut se donner à voir. Alors, Massin, commençons par le début. C'est étrange de... Enfin, c'est étrange, non, mais enfin, bon, voilà, c'est une trajectoire de devenir typographe. Ça a commencé comment, chez vous, l'intérêt pour la typographie, la forme des lettres?
Bah, écoutez, vous m'avez posé la question de savoir quel était mon rapport au texte. Ce que je vous réponds, c'est que j'ai un rapport au texte depuis l'âge de 4 ans et demi. Alors, à une époque, je ne savais pas lire. Bon, mais où mon père était graveur, sculpteur, installé à la campagne, je le voyais travailler dans les cimetières, je l'accompagnais quand il faisait des gravures lapidaires. Bref, un jour, il m'a mis sous les yeux, dans son atelier, une plaque de marbre, d'une pierre assez facile à travailler. Ouais. Il avait tracé mon nom, mon âge, mon adresse au crayon. Et il m'a remis entre les mains un marteau, un ciseau, en disant « Maintenant, fais comme moi ». Alors, j'ai pas eu trop de mal pour les verticales et les horizontales. Ça a été plus compliqué pour les courbes. Mais enfin, je m'en suis pas mal tiré. Et il m'a dit à la fin « Écoute, maintenant, je suis très content parce que plus tard, ça te fera toujours une poire pour la soif ». Il m'a dit ça, ou peut-être une poire pour la soif, ou je sais plus quel
autre. Enfin, une expression du même ordre disant que ça pourrait vous aider, quoi, vous
voilà.
Servir.
Mais je voyais pas le rapport avec ce que j'avais fait. Voilà. Donc ça commence comme ça.
Et alors ça commence comme ça, mais ça veut dire que vous avez beaucoup regardé votre père travailler, faire des lettres.
Ah bah oui.
Bah, et en quoi ça vous pensez que ça a constitué un rapport qui a perduré? Bah,
parce que j'ai commencé à connaître l'écriture. De toute façon, non, alors 6 mois après cette histoire de plaque que j'ai gravée, je rentre dans l'école de ma mère, qui était mon institutrice. Je n'ai pas appris à lire plus vite pour autant.
Ah oui.
En même temps, il fallait que ça se déclenche. Hein. Mais ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'à l'inverse des autres élèves, j'ai mémorisé toutes les images de mon abécédaire, aussi bien les textes, et en gros corps, que les gravures coloriées. Bon. Et je n'ai pas conservé cet abécédaire, malheureusement. Or, quand j'ai fait ce livre en 1989, c'est-à-dire longtemps après, qui s'appelle « L'abécé du métier », qui a été un gros succès, parce qu'il était jumelé avec une exposition sur moi au défunt musée de la CEITA,
Quelqu'un a retrouvé, c'est ça? Quelqu'un vous a retrouvé, parce que vous n'aviez pas le livre sous les yeux, et quelqu'un vous l'a montré.
Je préparais ce livre, me rendant à la campagne que je venais d'acquérir 20 ans avant, en m'arrêtant chez un brocanteur, où je m'arrêtais souvent avec ma femme. Qu'est-ce que je vois sur une étagère? Mon abécédaire. J'étais tellement content de le retrouver que le brocanteur m'en a fait cadeau.
Et vous aviez, est-ce que vous êtes aperçu à ce moment-là qu'en fait vous aviez bien mémorisé, notamment toutes les fontes?
Exactement. Et alors que, étant devenu graphiste, je disais à mes confrères, j'avais un abécédaire, mais je n'ai pas conservé, mais je sais qu'il y avait du Rockwell dedans, il y avait du Bodoni Gras, de l'écriture anglaise au bas des pages. Alors, ils haussaient un peu les épaules, et c'était exactement ça.
Et est-ce que ça veut dire, Massin, que vous avez, pour la typographie, la mémoire absolue qu'on peut avoir pour la musique?
Exactement, c'est comparable pour la musique. Alors il paraît que avoir la mémoire absolue tant pour la musique que pour la lecture, c'est une anomalie, et c'est partie d'une neurologie. En tout cas, je peux déchiffrer un tout petit texte. Je ne porte pas de lunettes pour voir de près. J'en porte seulement pour conduire. J'ai une très bonne vue. Je touche du bois. Voilà. Donc, ça commence comme ça.
Et alors ensuite, parce que ce qui est intéressant dans votre trajectoire, c'est que vous n'êtes pas venu tout de suite à la maquette et à la typographie. Vous êtes passé par le journalisme. Vous avez essayé d'écrire, etc. Qu'est-ce qui vous a fait revenir professionnellement à cela?
Je peux dire que je suis autodidacte parce que je n'ai pas dépassé le niveau du bac. Et encore, je me demande si j'ai eu la deuxième partie. J'étais d'abord avec ma mère. Bon, et j'étais un très bon élève. Et quand j'ai eu 10 ans, elle m'a dit, je peux plus te garder. Il faut que tu ailles en pension parce que tu es plus fort que les autres. Bon, j'étais très fier. Ouais. Mais malheureusement, j'étais en pension pendant 5 ans.
Ouais.
Et une pension qui était vraiment, alors là, très, très dure avec un directeur qui était quelqu'un de très bien sur le plan pédagogique, mais qui était sadique parce que deux fautes dans ta dictée, c'est deux paires de gifles. Alors, bêtez-moi au dos. Voilà. Alors, il y avait le fils d'inspecteur d'académie qui était dans ma classe, qui était pas très fort, je veux dire. 15 fautes, c'était 30 paires de claques.
Ah oui.
C'était vraiment sadique.
Ouais.
Or, il a été tué à la guerre en septembre 1939, dès le début. Et quand on a appris sa mort, tout le monde se sautait de joie. Or, mon père me dit, tu ne sais pas ce que tu as perdu avec cet homme. Et il avait raison. Donc, après, ça a été donc... Je suis passé de la pension au lycée de Chartres jusqu'au bac. Hein. Et puis, après, j'ai voulu monter à Paris contre l'avis de mes parents, comme ça arrivait souvent à l'époque. Et puis là, c'était la vache enragée. Pendant deux ans, j'ai pas mangé à ma faim. Ouais. Et à l'époque, on n'osait pas faire la manche. J'avais 19-20 ans. Bon. Par chance, je suis rentré comme secrétaire, entre guillemets, parce qu'il n'avait plus rien à faire, chez quelqu'un de célèbre à l'époque, inventeur des mots croisés, etc., Tristan Bernard.
D'accord.
Donc, et chez Tristan Bernard, j'ai vu un tas de gens dont j'avais lu des pièces de théâtre. J'avais lu 100 pièces de théâtre, au moins, de Sacha Guitry. Il était là. Je peux reparler avec lui.
Il était drôle ou pas?
Gros.
Drôle.
Drôle. Bah oui, ça, il avait de très bonnes répliques.
D'accord.
Ça,
dans la vraie vie aussi. Connu.
D'ailleurs, je suis allé le voir chez lui après, dans un immeuble qui est maintenant détruit, rue de l'Élysée Reclus, où il avait des trentaines de tableaux des impressionnistes, etc. Bon, j'ai vu aussi Léon Blum, j'ai vu Michel Simon, chez Stéphane Bernard, etc.
Bon, vous avez vu plein de gens, mais alors, c'est quoi le passage de ça, de cette vie de secrétaire auprès de Tristan Bernard, puis après un peu de journalisme, à ce qui était votre choc d'enfance avec les lettres.
Je continue un peu l'histoire. C'est que Tristan Bernard, que tout le monde connaissait à l'époque, les journalistes, bon, il avait toutes ses entrées partout, dans le théâtre, dans les journaux, bien qu'il était arrangé quand même. Et il m'a dit, je vais vous envoyer chez les rédacteurs en chef, parce que vous avez une bonne plume, ça, c'est bon. Or, à l'époque, les journaux n'avaient que deux pages, faute de papier. En 46-47 et même quelques années après. Et en plus, je n'avais aucun titre à la résistance. Bon. Donc, ça a été difficile. Alors, j'ai réussi à obtenir des petits papiers. J'ai réussi à obtenir un texte par jour dans le Populaire, qui est un journal socialiste. Malheureusement, j'ai fait une chronique qui mettait en congé des fonctionnaires et on m'a viré. Bon, après, je me suis occupé de la chronique de théâtre, et de cirque et de cabaret au journal Gavroche. Là, bon, j'ai été débarqué. Non, j'ai vu le début des frères Jacques, j'ai vu des tas de gens que j'ai connus après, Tati, tout ça. Bon.
Et donc, alors, quand est-ce que vous avez. Il y a du suspense là. Quand est-ce que vous arrivez à ce travail-là?
Alors, bon, mon idée quand j'étais en classe au lycée de Chartres, c'était d'être dramaturge. Bon, j'ai lu des centaines de pièces de théâtre, je t'en parlais tout à l'heure, à la bibliothèque municipale, des centaines de pièces. Hein. Et j'avais même fabriqué une carte de visite, Massin. Mon nom, c'était Claude Menuet. Nom que j'ai repris comme pseudonyme quand j'ai fait mes premiers romans chez Gallimard.
D'accord.
C'est assez amusant. Et il s'est trouvé que... comment dire...
Pourquoi n'êtes-vous pas devenu un dramaturge?
Fortuitement, je suis rentré dans l'édition.
Ah.
Bon. Après deux ans de Vaste Enragé, à raison d'une demi-baguette de pain, un yaourt et un cornet de frites par jour pendant deux ans, je rentre au Club français du livre. C'était un des premiers clubs en France qui débutait. Il avait débuté en 1946-1947. J'y rentre en 1948. Hein, et là, on me dit que je vais avoir deux casquettes. Une casquette de rédacteur en chef, entre guillemets, parce qu'il était tout seul, à faire le bulletin mensuel destiné aux adhérents, qui étaient souvent en province. Bon, ça, je savais faire.
Ouais.
Je savais raccourcir un texte, l'allonger à volonté, etc. Mais on me dit, vous allez aller à l'imprimerie pour faire la mise en page. J'avais fait aucune école de graphisme. Vraiment, autodidacte total dans cette... J'avais pas fait l'école estienne. Bon. Et quand, dans cette imprimerie, je tombe sur un prot, comme on dit, un typographe, qui commande une section dans l'imprimerie, qui est un italien qui était antifasciste. Il s'est réfugié en France pendant la guerre, je ne sais pas où. Et il m'a appris mon métier en quelques semaines.
Qu'est-ce qu'il vous a appris?
Il m'a appris à composer des lettres, il m'a appris à faire un tas de choses que font les typographes apprentis, que moi je n'avais pas fait du tout. Mais avec mon amour de la lettre, mon intérêt pour la lettre, ça a marché très bien. Et j'ai fait la mise en page du journal aussitôt après, pendant les 5 ans ou 10 ans que je suis resté dans cette maison.
Et vous y avez immédiatement trouvé goût? Ça vous a plu immédiatement?
Ah, mais, oui, parce que ça m'a remis en relation avec mon père. Parce que mon père, il avait 4 ou 5 polices, on appelait ça à l'époque les abécédaires, dont il se servait pour ses gravures, et je les connaissais par cœur. Ouais. Donc j'ai ajouté à ces polices que je connaissais d'autres polices que j'ai trouvées dans les imprimeries.
Alors on va pas, Massin, on peut pas énumérer tout ce que vous avez fait, tous vos travaux, c'est impossible. Mais simplement, essayez de nous expliquer parmi vos grandes œuvres que j'ai citées, enfin vos grandes œuvres en tant que maquettiste, typographe et directeur artistique, j'en ai cité trois. La collection poésie Poche Gallimard, bon c'est une chose, mais deux autres, Folio et L'Imaginaire. Bon, que tout le monde a en tête, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, ça a été quoi le coût, la réussite, par exemple, de la collection Folio, typographiquement, du point de vue de la maquette? On est au début des années 70. C'est quoi le truc? C'était quoi votre idée? Ben, c'est quoi la réussite?
J'ai passé deux ans auparavant, dès lors qu'on commençait à travailler sur la question, j'ai passé deux ans auparavant, pendant toute la foire de Francfort, j'ai vu tous les pays du monde, à la fois pour le papier, pour le format, pour la couverture, surtout la couverture bien sûr, puisque j'aurais à la faire. Bon. J'ai fait un voyage dans l'intervalle en Extrême-Orient, où j'étais jamais allé, et j'ai été fasciné par les paysages urbains de Hong Kong. Je les ai photographiés d'ailleurs, avec toutes ces pancartes qui barraient la rue, une chose qu'on ne voit jamais ailleurs, hein, et que j'ai vue à Hong Kong. Ça m'a mis dans la tête la quadricromie. Ça paraît curieux, mais jusqu'alors, chez Gallimard, je faisais les couvertures soit en noir et blanc, soit en noir avec une couleur, rarement en quadricromie, il fallait que ce soit un best-seller. Et là, d'un seul coup, je dis, Folio, ça va être la couleur. Et j'ai pris le contre-pied total de ce qu'avait fait Hachette. Alors ça, c'est très important de vous expliquer ça. C'est que le livre de poche d'Hachette, qui est né en 1953, c'est pour moi la plus grande révolution
bien sûr,
hein, en matière de livres.
Hein. Ouais.
D'ailleurs, elle a eu contre elle cette entreprise, il a eu contrat à la fois les auteurs et les libraires.
Bien sûr.
Parce qu'on payait 5% aux auteurs des ouvrages qu'on leur payait dans l'édition courante 10, 12 ou 14%. Mmh. Et les libraires, ils faisaient un petit bénéfice. Mmh. Bon, c'est Guy Scheller et Henri-Philippe Aki qui ont créé la collection. Bon, c'est la plus grande révolution pour moi. Malgré tout, c'est un, sur le plan graphique, pour moi, c'était nul.
Ouais.
Hachette avait copié totalement la formule américaine de livre de poche qui existait déjà avant la guerre. Bon, on raconte, je pense que c'était une fantaisie, bon, on raconte que les GI pour moins charger, cassés en livre en deux quand ils étaient trop gros. Bon, mais ça, c'est, ouais, c'est une légende. Ils ont repris, Hachette a repris le format du livre de poche américain, les tranches jaspées. Mmh. Alors, ces tranches jaspées avaient une raison particulière. C'est que quand on faisait des livres de poche, et c'était pareil en France, on prenait des restes de chutes de papier qui n'étaient pas la même couleur de blanc.
Ah,
ça se voyait sur les tranches.
Donc, il fallait colorer les tranches pour unifier. Ah, je sais pas.
Bon,
ça,
et en plus de ça, ça avait un autre avantage, c'est que les livres qui restaient longtemps en stock, qui prenait la poussière sur l'eau, on soufflait dessus, on voyait pas la poussière.
Alors, oui, alors d'accord, donc il y a le livre de poche. 15 ans plus tard, Gallimard décide de reprendre son stock d'édition de poche et de créer sa propre édition de poche, Folio. Donc, alors, vous nous expliquez. Donc, il y a, c'est très drôle, je ne savais pas du tout. Il y a dans votre idée la quadricromie qui provient de ce que vous avez vu en Asie. Bon, oui. Mais il y a d'autres choses dans ces couvertures.
Attendez. Donc, d'abord, je ne voulais pas répéter la couverture d'Hachette, et qui était volontairement un désordre. C'était jamais la même typo, c'était tantôt des photos, tantôt des illustrateurs, tantôt des typographiques. Bon, moi, j'ai dit, ça va être une collection illustrée. Là, influencée par les affiches que je voyais à l'époque dans le métro et dans les rues, Savignac, autres, bon, je me suis dit, il faut revenir à des dessins du style Benjamin Rabier, c'est-à-dire du début du siècle dernier. Bon. C'est ça qui va marcher. J'ai eu du nez, hein, parce que, en effet, ça a bien marché. Et j'avais réservé une après-midi par semaine pour recevoir des
illustrateurs.
Souvent, c'était des débuteurs. Bon, ils n'étaient pas encore au point. Mmh. Donc, je revenais me voir dans 6 mois. Ce n'était pas du tout façon de dire. Hein. Quand ils revenaient 6 mois après, généralement, ils avaient fait de tels progrès que je leur donnais leur chance. Bon. J'espère que ça va être trop long, mon histoire. Mais enfin,
bon. Il va falloir un peu...
J'ai inventé aussi un contrat. Parce qu'à cette époque-là, les éditeurs, quand ils demandaient un dessin à Cocteau ou à Picasso, ils gardaient l'original. Ouais. Ils pensaient qu'ils l'avaient acheté. Ils ne l'avaient pas acheté, ils l'avaient seulement loué. Bon. Donc, j'ai fait un contrat suivant lequel les illustrateurs seraient payés, même si leur projet était refusé, mais au moins un tiers. Bon. Et puis, je ne sais plus quoi encore. Bon, mais
à votre avis, c'est quoi ? Parce que vous avez, dans ces années-là, début des années 70, vous faites Folio, vous faites l'imaginaire, un peu après, sur d'autres principes. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez compris de ce que c'était que le livre, à ce moment-là, et sans doute son évolution dans la société, pour que ces couvertures, ces maquettes aient autant de succès ? Et un succès pérenne, puisqu'encore aujourd'hui, Folio a très peu bougé, l'imaginaire non plus. Donc du coup, qu'est-ce que vous pensez avoir compris ? Est-ce que, par exemple, cette idée d'aller piocher dans la culture visuelle populaire, celle de l'Asie du Sud-Est, ou populaire en Asie du Sud-Est, d'aller récupérer des vieilles idées de la culture visuelle traditionnelle, qu'est-ce que vous avez saisi, pensez-vous, de ce que c'était que le livre à l'époque pour que ça marque autant et que ça fonctionne aussi bien ?
Ça tient au fait que j'avais toujours des images de lettres dans la tête, d'une part.
Qu'est-ce que ça veut dire, des images de lettres ? C'est-à-dire que vous avez des images mentales de lettres tout le temps, comme ça ?
Oui. C'est presque une synesthésie. C'est-à-dire une audition coloriée pour parler comme... Je suis en train de faire un livre là-dessus.
Ouais.
C'est étonnant parce que je pensais, il y a 30 ans, comme beaucoup de gens, que le sonnet des voyelles, c'était la première fois qu'on faisait l'audition coloriée. Mmh. C'est-à-dire qu'on percevait à la fois les couleurs et les sons. Or, j'ai découvert, j'ai fait des conférences en Europe, jusqu'à Saint-Pétersbourg, il y a 2 ou 3 ans, où les profs étaient stupéfiés d'apprendre que dans l'Antiquité, Aristote, Ptolémée, Pythagore et Saint-Augustin avait étudié le phénomène, c'est un phénomène neurologique, de la synesthésie, c'est-à-dire qu'ils comprennent deux sens en même temps, et quelquefois davantage.
Et par exemple, quand je dis Massin, comment ça vient dans votre tête? C'est quoi? Il y a les lettres en quelle forme?
Oh ben ça, je ne peux pas vous dire. Ça vient dans la tête. Je vais vous montrer ma carte de visite que j'ai créée en 2001. Voilà ce qui vient dans la tête. C'était une banderole de 10 mètres de longueur pour l'exposition.
D'accord. Ah oui. Alors, je peux difficilement la montrer. Donc c'est
je vous la laisse.
Un ABC. Ah, vous me laissez. Merci. C'est gentil, une carte de visite.
Voilà. Donc, tout en couleur et des caractères qu'on appelle maintenant des linéales. Voilà.
Des linéales, d'accord. Bon, on va continuer notre...
Alors, l'imaginaire.
L'imaginaire.
Non, mais le plus important, c'est l'imaginaire. Ouais. Vous allez voir pourquoi. Parce que toutes les semaines, nous avions une réunion avec le patron, où il y avait les chefs de service. On était 6 ou 7. Et Bernard Fixot, qui était à l'époque directeur commercial de Gallimard, avant de se créer sa propre maison, il y avait un serpent de mer. Comment peut-on faire pour mettre dans Folio des auteurs qui sont d'ailleurs tout à fait estimables et qui ont une clientèle, mais une clientèle tellement réduite que ça ne peut pas correspondre à la nécessité financière et technique de la collection. À l'époque, il fallait que chaque exemplaire puisse se vendre au moins, je ne sais pas, c'est 12 000 ou 15 000 exemplaires.
Ah, oui.
Je pense que maintenant, ça doit être la limite, doit être à 5 000.
Oui, on a dû descendre un petit peu.
Il est vrai que les prix ont augmenté. À l'époque, Folio est sorti à 4 francs, parce que c'était quand même pas... L'achat était à 3 francs. Mais le ministre des Finances nous a obligés à revenir à 3 francs.
Bon, alors, l'imaginaire, parce que sinon
alors,
on va jamais aller.
Ouais. Donc, on n'arrivait pas à trouver la solution. Fallait-il faire une autre collection, une section de Folio, etc. Or, un week-end de 14 juillet, j'étais à la campagne, je défilais pas ce jour-là, je me mets en tête de faire une collection. Alors, en traçant sur des lettres, sur des calques, comme je faisais encore à l'époque. Mm-hmm. Alors, comme à la campagne, j'avais à la fois des polices de caractère qui dataient d'il y a 300 ans et d'autres qui dataient de 15 jours, j'avais l'embarras du choix. Alors, pour m'amuser, je dessine chaque couverture avec une typographie différente. Une typographie différente qu'un œil de profane différencierait. Pardon. Et en effet, c'était des contrastes, bon, très très bien. En rentrant à Paris, j'avais fait 19 projets. Pourquoi 19, j'en sais rien. Rentrant à Paris, je confie à un laboratoire, je pense pas que ça existe encore maintenant, qui faisait à un exemplaire, et très coûteusement, une couverture. Ouais. En couleur, qui donnait l'illusion complète de la couverture imprimée. Bon, je fais ça quand même au frais de Gallimard. Et puis, quand c'était fait, je découpe les couvertures, je les colle sur des ouvrages en blanc pour que ça soit plus crédible. Ouais. C'est vraiment un objet. Je descends mes 19 couvertures vers le bureau de Gallimard. Bon, il était en rendez-vous. Sa secrétaire m'a dit, donnez-moi cette pile. 24 heures après, je repasse, il était encore en rendez-vous, et elle me dit, oh mais il m'a donné sa réponse. Alors il a fait deux piles, si je puis dire, il y en avait une de 18, une de 1. En fait, il pensait, parce que je n'avais pas pu lui expliquer...
Qu'il fallait choisir. Ah oui, d'accord, il n'a pas compris. Ouais.
Alors quand je l'ai revu un jour après, il m'a dit, maintenant vous m'avez expliqué, j'ai bien compris. C'est en effet très, très original. Bon. Alors j'ai fait la couverture... J'ai encore fait des pré-maquettes avec la sirène du Mississippi de Truffaut, etc. Bon, parce que je travaillais avec des illustrateurs et aussi des auteurs des films aussi. Hein.
Mais donc, la force de l'imaginaire, c'est quoi? C'est varier les typographies de couverture en couverture, mais avec un cadre formel qui lui est fixe.
C'est ça. Il y a les invariants, si l'on peut dire. C'est le format, le fond blanc. Une typographie jamais la même.
D'accord, c'est ça. C'est varier les typographies.
Et un logo, qui était un rectangle noir. Donc Gallimard s'est débarrassé parce qu'il ne voulait pas du noir.
Bon. Et en quoi vous pensez, Massin, que ça veut dire quelque chose de ce que c'était l'idée de l'imaginaire? L'idée de l'imaginaire, c'était des livres, soit des livres un peu moins connus de grands auteurs, soit des auteurs plus marginaux. En quoi est-ce que la couverture, la maquette, dit quelque chose de ce que c'est que cette collection?
D'abord, c'est une couverture qui, tant que le livre existe, ne changera tout et sera toujours la même, tout en variant. C'est ça, c'est le même et l'autre. Bon, on peut aussi imaginer que sur des tablettes, il y ait une couverture. Pourquoi pas ?
Ah, mais ça, c'est ça, ouais.
Donc, ce que j'ai fait en 1977, je crois, peut durer 1000 ans si le livre dure 1000 ans. Ce qui ne sera pas le cas, bien sûr. Non. Mais alors pour finir mon histoire, Claude Gallimard montre mes pré-maquettes aux 5 ou 6 personnes qui étaient là. Comme il avait la mine réjouie, tout le monde dit « Ah, oh, c'est très bien. Bon. » Mais comment va-t-on l'appeler ? Et moi, je lance comme ça, avec sa brutto, je n'avais pas du tout pensé à la chose. Mais comment va-t-on l'appeler ? Pourquoi pas l'imaginaire ? Parce qu'en fait, c'était des romans de fiction en général. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'essais. Bon. Et alors Claude Gallimard dit « Ah oui, mais il faut demander son accord à Sartre, parce qu'il a publié chez nous un livre philosophique qui s'appelle « L'imaginaire ». Bon. Sartre consulté, il répond « Mais oui, faites ce que vous voulez. » Il était toujours d'accord. Ça, vraiment, c'est le bon. Et 8 jours après, mon patron se regorge dans son fauteuil en disant « Oh, je suis quand même heureux d'avoir trouvé ce titre. »
Ah, ben c'est ça, c'est ça. Bon, Massin, on va continuer notre discussion, mais tous les jours, chaque jour, Véronique Lamandour, qui réalise cette émission, fabrique un petit mix sonore de sons que lui évoque l'invité du jour. Et voici pour vous, Massin.
Le monsieur se balade. Il lui tombe un pot de fleurs sur la gueule. C'est la faute au voyou. Pourtant, il n'y a pas de voyous à l'horizon. Ils sont tous à la salle Pleyel. Ils écoutent du Mozart. Alors ? Alors ? Alors ? Il l'a pourtant bien reçu sur la gueule, le monsieur, le pot de fleurs, pendant qu'il se baladait. Alors t'en fous ?
Camarade, vous avez l'oubli trop facile et votre colère tombe vite. Vous êtes vivant, vous aimez rire, le bourgeois raconte qu'il aime rire. Alors vous riez avec lui. Pourtant son rire n'est pas le même que le vôtre. Ce n'est pas un véritable rire, l'homme rit, le bourgeois ricane.
J'en ai marre, et je voudrais bien me reposer.
Massin, voilà quelques extraits sonores de poèmes que vous avez sans doute reconnus, du Queneau, du Prévert, du Cocteau, du Ionesco, tout ça remixé par Véronique Lamandour. Juste, c'est des auteurs dont certains de ces auteurs, vous les avez très très bien connus, qui sont été vos amis, Queneau.
Tous ces écrivains m'ont enrichi considérablement.
Vous ont enrichi.
Ce n'est pas que j'étais un culte en arrivant chez Gallimard, mais enfin, c'est à force de fréquenter des auteurs importants, dont certains d'ailleurs assez âgés, comme Sarah par exemple, créateur du dadaïsme, que j'ai eu envie d'écrire. Et non plus de faire des pièces de théâtre comme je voulais faire en forme, mais d'écrire des romans, ce que j'ai fait.
Mais parmi ces auteurs, lesquels étaient vraiment sensibles à la manière dont leur texte devait être mis en forme, avec lesquels vous avez eu les plus grandes discussions sur des choix de typos, sur des choix de maquettes?
Alors, Francis Ponge, que j'aimais beaucoup, m'a fait faire trois tomes de qu'il appelait le grand livre, avec des déclinaisons, et on s'est un peu bagarré pour un détail. C'est un peu ridicule, parce que moi, dans tous les livres, parce que j'ai fait des livres courants chez Gallimard, des centaines et des milliers de livres courants pendant que j'étais, je supprimais les astérisques, c'est-à-dire, vous savez, ces petits tas de pierres, comme les appelait Francis Ponge, qui séparent les chapitres.
Oui, bien sûr.
Je remplaçais ces astérisques en forme de triangle par des espaces plus ou moins importants.
D'accord.
Bon, suivant le sens du livre. Bon. Et Francis Pons ne voulait pas que je supprime. Bon, j'ai...
Et vous êtes disputé à cause de cette...
Ah, exactement, c'est pas mal, ça, ouais. Exactement.
C'est... Qui l'a emporté ? Vous ou lui ?
Ah, c'est moi qui l'ai emporté.
Ah ouais, d'accord.
Mais ça, il a gagné sur d'autres tableaux, bon, ouais. Parce qu'il voulait des lettrines, etc. Bon, bon. Ouais. Bon. Mais j'ai eu un travail de 3 mois avec lui. Hein. Mais sinon, en général, les auteurs me laissaient faire. La seule chose qui était un sujet de discorde avec eux, c'était toujours la couverture.
Ah bon, pas
parce
pourquoi ?
Parce qu'un auteur est très mal fondé à faire la couverture lui-même.
Ah bon, et pour quelle raison, ça ?
C'est le dernier à qui il faut le demander. Parce qu'il n'a il a pas une vie suffisamment extérieure. Enfin, non, si on lui demande... Bon, dans Folio, par exemple, j'ai beaucoup souffert d'avoir des projets refusés par des écrivains importants auxquels je tenais beaucoup, aussi bien que Noh, Ionesco et quantité d'autres. Hein.
Et quelle est la couverture parmi les centaines, voire les milliers que vous avez faites, que vous aimez encore beaucoup, dont vous trouvez qu'elle est peut-être une des plus grandes réussites ? Et je ne parle pas commercialement, hein, je parle...
Une couverture de Lesser pour Rhinocéros. De Lesser est un graphiste important, suisse d'origine, qui vit en Amérique. Et malheureusement, enfin, Ionesco ne l'aimait pas. Mais enfin, il ne me l'a pas refusé.
Et c'était, quel était l'intérêt ou la qualité, selon vous, de cette couverture particulière ?
C'est une qualité qui était égale à un tableau. De Lesser, c'est quelqu'un de très important dans le graphisme. Il est extrêmement connu aux États-Unis. Il a travaillé, quand il était en France, chez Gallimard Jeunesse.
Et Massin, est-ce que l'intérêt qu'on a à fabriquer une couverture dépend de l'intérêt du texte ? Parce que vous avez mis en forme et trouvé des couvertures pour des textes qui sont des très grands textes de la littérature française, voire mondiale, et puis pour d'autres qui sont quand même des moins grands textes de la littérature française, voire mondiale. Je ne sais pas quand vous, par exemple, je prends son exemple, mais ça pourrait être d'autres. Hein. Je ne sais pas quand vous mettez quand vous faites la couverture d'un livre de Max Gallo, par exemple, c'est quand même pas la même chose que faire une couverture d'un livre d'André Breton, quoi. Bon. Et donc, est-ce que vous y accordez la même intensité ? Est-ce que vous avez la même fierté ?
Écoutez, si on veut traduire un livre en couverture, c'est totalement impossible. Bon. Le livre que je suis en train de faire, dont je vous ai parlé, qui fait 600 pages, qui s'appelle De moi l'autre. C'est un peu paraphrase Céline d'un château l'autre. Hein. On ne va jamais à la ligne. Il n'y a pas de ponctuation. Ouais. Et on s'y fait très bien, d'ailleurs. Hein. Et toutes les rubriques sont séparées par des petites vignettes typographiques, un petit dessin typographique. Il y en a environ, je pense, 700 ou 800.
Bon. D'accord.
Et si on veut résumer ce livre, qu'est-ce qu'on va dire ? Ben, moi, je le résume en disant c'est toute ma carrière et toute mon existence, de 4 ans et demi à 88 ans et demi. C'est ça, en fait, ce livre. Bon. Mais c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Et on ne sait pas par quel bout le prendre. C'est ça aussi son intérêt. Bon. Alors, je crois que bien souvent, les meilleures ventes ont été faites avec des couvertures qui ne traitaient pas directement le sujet du livre, qui faisaient allusion indirectement. Mais, parce que si on veut traduire le livre, bon, j'ai le cas d'un auteur, je ne sais plus lequel exactement, qui me raconte son livre.
Ouais.
Il me dit, bon, ça se passe dans les Pyrénées, on voit un gave de peau, il y a une église, il y a des moutons, il y a un berger, il y a une forêt, on voit des oiseaux. C'est impossible à résumer en une seule image.
C'est sûr. Bon. D'ailleurs, ça ne donne pas follement envie de le
lire. J'ai fait un recadrage d'une aquarelle qu'une de ses nièces, comme c'est souvent le cas, avait faite, d'un paysage complet. Ouais. J'ai fait un recadrage sur un clocher d'église, un bureau de tabac, et puis, je ne sais pas, un cheval, je ne sais pas quoi. Bon. Et c'était une très belle couverture.
C'est-à-dire qu'il faut que la couverture acquiert une forme d'autonomie par rapport au contenu du livre.
Oui, je pense.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur Max Gallo et André Breton.
Bah, écoutez,
est-ce qu'on accorde le même investissement ?
Mais ce sont deux mondes différents. D'abord, Max Gallo, en général, c'est le livre d'histoire qu'il écrit.
Ouais, non, mais
bon,
bien sûr.
Breton, c'est pas des livres d'histoire.
Non, je sais bien.
Bon. Alors, et entre eux, il y a le surréalisme. Bon, Max Gallo, à ma connaissance, n'est pas un surréaliste.
Je ne crois pas.
Déjà, non, mais déjà les registres, les genres, les animosités, etc., les disputes. Bon. Alors, Max Gallo, j'ai fait peut-être, je sais pas, une douzaine de couvertures de lui. J'en ai fait chez Gallimard, je me trompe peut-être. J'en ai fait chez des éditeurs faisant partie du groupe Hachette. C'était sur De Gaulle, c'était sur Napoléon, etc. Bon, j'avais toujours, de toute manière, une image, une gravure ancienne. Alors, bon, voilà un exemple de Max Gallo. Bon, un livre sur César, l'impérator. Bon. Il raconte toute la vie de César, etc. Vercingétorix y passe. Bon. Je trouve dans un album photographique un tableau pompier, je peux dire, de 1850 environ, bon, qui montre Vercingétorix à cheval s'arrêtant devant le trône surélevé de César, sur son cheval, avec l'épée, avec l'épée qu'il jette.
Il jette l'épée, il jette les armes.
Eh bien, la couverture, ça a été finalement une tête de César qui ressemblait à...
Marlon Brando. C'est Marlon Brando.
Voilà, ouais. Exactement. Donc, c'est un visage que beaucoup de gens ont pris pour
Marlon Brando.
Marlon Brando. Hein, alors que c'était une image figurative de César, vieille de deux siècles. Bon, voilà. Et le livre a marché.
Et là, vous êtes fier quand vous faites ça. Vous trompez le lecteur, ça. Vous lui mettez César avec la tête de Marlon Brando. Oui.
C'est bien pourquoi les images, souvent, nous aident à faire des livres, qu'ils soient de texte, ou encore plus quand ils sont des albums, bien sûr.
Voilà. Alors, on continue d'avancer, Massin. Chaque jour aussi, Véronique Lamandour, elle plonge dans les bases de données qui existent sur Internet. Et aujourd'hui, elle a tapé dans YouTube, elle a tapé un mot, éditeur.
Clé de sol, tapis dans l'ombre, clé de fa sur le palier. On m'a dit qu'il fallait faire vite, qu'il ne mangeait pas à sa faim. Avant qu'il ne chante en bronchite, tâchez qu'il chante pour mon bien. Achetez quelques chrysanthèmes, ça montrera qu'on a du cœur. Ce n'est qu'à leur tombe que j'aime voir pousser mon blé d'éditeur. Imprimons cette fadaise à des milliers de formats et fermons la parenthèse à ce qui fut le contrat. Et sur les ondes cosmiques, que ça n'aille incognito.
C'était évidemment Léo Ferré. Visons l'éditeur que nous écoutons depuis la cour de l'Université d'Avignon avec vous, Massin, qui êtes typographe, maquettiste, directeur
écrivain,
artistique et écrivain, bien
50
sûr.
50 livres environ quand même.
Comment ?
50 livres.
Oui, 50 livres. Bah, disons, ouais. 50 livres, des milliers de couvertures. Est-ce que on écoute Ferré, donc libertarisme de Ferré, et je me posais la question, vous revendiquez politiquement une sorte de vieux fond comme ça, libertaire. Est-ce qu'il y a de la politique dans la typographie, dans la forme des lettres ?
Oh bah, je peux vous citer la croix gammée. Ben non, parce que c'est une image, image typographique empruntée au persan. Hein, et puis en plus de ça, on sait maintenant qu'Hitler, quand il était jeune, a suivi les opéras de Wagner, les premiers, qui est d'une inspiration romaine, et que, par exemple, les banderoles, les bannières, étaient un remake de ce que faisaient les Romains. Et donc, politiquement,
Et vous, alors ? Parce que, bon, il y a ça, mais à vous, est-ce que ça se glisse ? Je ne sais pas, le fait d'aller récupérer certains types d'affiches, des affiches qui appartiennent à une histoire, est-ce qu'il y a, du coup, ce glisse, je ne sais pas, un rapport à la politique là-dedans ?
Écoutez, il y a des gouvernements dans le passé qui ont fait de la politique avec la typographie. Hein. D'ailleurs, est-ce que je peux vous raconter quand même les débuts de l'imprimerie?
Ah, allez-y.
J'espère que ça ne va pas être trop long.
Non. Ça dépend si vous remontez à 1453.
Ça remonte à 1453. En France, on était en retard. Bon, la première imprimerie, en 1472, je crois, à la Sorbonne. Bon. Il y a une chose étonnante que m'a révélé un historien de la typographie. C'est entre 1453, date première, et la 1499, il a été produit en Europe, en comptant la Russie, il a été produit entre 8 millions et 20 millions, on ne sait pas exactement combien, mais enfin, c'est de cet ordre-là, d'incunables, comme on appelle les premiers livres imprimés pendant 45 ans de ce siècle. À une époque où les nobles, où les prêtres étaient les seuls à parler leur langue, il y a eu tout. Bon, ça montre bien que si Gutenberg n'avait pas inventé l'imprimerie à Mayence, comme on sait, elle aurait été inventée à Lyon, à Paris ou à Venise. Mmh. Bon, comme on a inventé dans ces villes-là des caractères différents. Bon. Alors, au sujet des caractères précisément, bien qu'on n'ait pas d'image à montrer, malheureusement, c'est pas possible, il y a eu trois options. Au début du 15e siècle, le 16e
siècle. Du 16e,
ouais. 16e, hein. Qui se sont posés pour un philosophe français dont le nom n'est pas connu, pas très connu, qui était un contemporain de Dürer en Allemagne et de Vinci en Italie. Vinci vivait aussi en France. Il s'appelait Geoffroy Torry. Geoffroy Torry, comme tous les philosophes de cette époque, était à la fois physicien, musicien, mathématicien, typographe, etc. Bon. Il avait choisi entre le caractère allemand, qui était déjà celui de manuel, enfin de la gothique, qu'on appelait le fracture, caractère très, très étroit et très noir. Bon. Il avait à choisir entre l'Italie, qui était un caractère italique, c'est-à-dire penché, qu'on venait d'inventer en 1500, hein, et un caractère spécifiquement français, pour le royaume de François Ier, qui est un caractère tout simplement repris à l'écriture des scribes, un caractère romain.
D'accord.
Donc, les textes que vous lisez aujourd'hui, c'est finalement, pour une bonne part, l'écriture des scribes.
Ah, et c'est le fruit de ce choix-là.
Voilà.
D'accord.
Il a choisi un caractère français.
C'est-à-dire, si c'est celui qui est repris de l'écriture des scribes, ça veut dire qu'il est, selon vous, le plus proche de ce que c'est qu'une écriture manuscrite.
Exactement. L'écriture descend directement dans l'imprimerie, dans le texte, à cette époque-là, dans l'option française. Bon. Mais il y a une petite histoire que je vais greffer là-dessus, c'est l'histoire du caractère italique. Bon. À force de diffuser des livres imprimés, vers la fin du siècle, on s'est aperçu que le papier allait manquer. Alors, à l'époque, le papier venait de la Chine. Mmh. C'était quand même un long trajet, il venait de la Chine, comme la soie, comme un tas de choses, comme les macaronis, comme la boussole, tout, etc. Or, ça a été une vraie panique chez les imprimeurs, parce qu'à l'époque, les livres étaient, enfin, des in-folio, c'est-à-dire l'inverse de ce que la collection folio, c'est-à-dire des livres qui faisaient, je sais pas, qui étaient très grands, reliés en cuir avec des gros clous pour les poser sur la table, incrustés dans le cuir. On a en quelques années, on a réduit la taille des livres au format d'un livre de poche. Donc j'ai fait une conférence à la BNF il y a 10 ans. Sur l'histoire des livres de poche, et j'ai dit, le livre de poche commence au XVIe siècle.
Sûr,
alors, tout le monde avait les yeux ouverts. Bon. Et c'est vrai, les gens qui voyageaient beaucoup à l'époque, avec des diligences, avec des coches...
Oui, avaient des tout petits livres, mais ça...
petits livres, ils pouvaient mettre dans leur poche de gabardine, de manteau, un livre de cette époque-là, alors qu'ils n'auraient pas pu mettre un in-folio, naturellement. On a réduit le corps du texte, on a réduit les marges du texte. Or, les marges étaient faites pour des commentaires qu'on ne pouvait donc plus y faire. Parce qu'à l'époque, on avait des bibles foisonnantes, c'est-à-dire que le texte principal était entouré dans les marges d'un commentaire du texte.
Vous nous racontez ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des moments...
Attendez. Ouais. Et on avait même prévu dans les blancs un commentaire du commentaire. Ça n'en finissait pas. Bon. Donc... On a réinventé la mise en page à cette époque-là.
D'accord.
Et Jean Genet, que j'ai bien connu, avec qui j'ai travaillé, a pris l'exemple pour un de ses livres qu'on a sorti 20 ans après sa mort, parce qu'il avait soi-disant perdu, un livre dans lequel il disait du mal des Noirs et du mal des Arabes. Mm. Genet disait du mal de tout. Il voulait pas être en livre de poche, il détestait les jeunes. Bon, c'est le contraire de tous les gens. Vous savez, il y a des gens que j'ai connus... Autant Sartre était gentil comme tout, généreux et tout, autant Simone de Beauvoir, je m'excuse, mais bon, avec son turban, elle commençait à m'agacer. Elle me prenait un peu pour un domestique. Elle avait une voix désagréable. Bon.
Vous avez un art du glissement, c'est-à-dire passer de l'histoire, de la typographie au turban de Simone de Beauvoir en l'espace de 15 Duras, secondes, c'est waouh.
Marguerite Duras, qui écrivait trois fois son texte, bon, elle ne voulait pas rentrer dans le bureau parce qu'elle lui donnait la migraine, donc il fallait la voir dans le bistrot en face, bon, etc. etc.
Bon, non, mais alors, et là, aujourd'hui, la typographie, est-ce qu'elle est en train d'être révolutionnée par les technologies numériques et parfois dans un bon sens, c'est-à-dire qu'on voit par exemple apparaître un nombre foisonnant de nouvelles typographies qui sont commentées, discutées sur les réseaux, etc.
Mais ils s'en créent tous les jours.
Bah oui, mais c'est magnifique ça.
Mais ils sont destinés. C'est pas destiné, comme on dit, au labeur. C'est-à-dire qu'ils sont pas destinés à être dans des textes, mais des titres plutôt. Des titres.
Oui. Et alors
oui, des affiches. Mais non, c'est-à-dire qu'ils ont une vie très passagère, très.
Et c'est grave.
Bah oui.
Pourquoi mais c'est pas grave qu'elles aient des vies passagères, les typographies?
Non, parce que c'est une question de mode. Or, comme disait Cocteau, la mode, c'est ce qui se démode.
Ouais.
Et un Italien, dont j'oublie le nom, un poète romantique italien, disait que la mode, c'est la mère de la mort, parce qu'elle se détruit elle-même. Voilà. C'est ce que je te dis souvent. Donc,
mais vous le regardez comment, ce retour? Parce que quand même, on ne peut pas dire... vous avez commencé à travailler à une époque où on travaillait au calque.
Oui.
Vous avez vu arriver l'informatique au cours des années 80.
Ah ben, attendez, mais avant, j'ai eu le lettre à 7, c'est-à-dire... C'est comme dans les planches de coloriage pour les enfants, avec une spatule, on frottait les lettres l'une après l'autre, en déplaçant la feuille l'une après l'autre.
D'accord.
C'est comme ça que j'ai fait l'imaginaire, d'ailleurs,
ah oui.
Finalement. Hein.
Ouais.
Et puis après, j'ai eu le repromaster, puis après, j'ai eu l'informatique.
Bon. Et alors, est-ce que l'informatique, ça change quelque chose, selon vous, au travail du typographe, du maquettiste, qui peut faire des essais, les défaire en l'espace de quelques secondes, changer tout comme ça en un clic?
Ça change quelque chose, sauf que tout le monde fait la même chose.
Ah, vous trouvez?
Ben oui, parce que les meilleurs graphistes du monde entier, qui maintenant, autrefois... Moi, quand je voulais une revue américaine il y a 50 ans, il fallait 6 mois pour la recevoir, bon, c'était compliqué. Maintenant, la communication est instantanée dans les journaux, à la radio, à la télévision, etc., Internet. Bon. Donc, tout le monde sait ce que fait tout le monde.
Ouais.
Hein, tout le monde est pisté, tout le monde est épié. Bon. Eh bien, j'ai participé à un concours fait par des Suisses. J'ai fait pas mal de concours de ce genre. Où il y avait 10 pays concernés.
Mmh.
Bon. Et mon projet a été refusé. Bon. Et quand j'ai reçu le dépliant qui me montrait ce qu'avaient fait mes concurrents, ils faisaient tous la même chose. C'était un dépliant où on retrouvait les mêmes défauts dus à l'informatique, dus à un logiciel d'informatique, Xpress pour le nommer.
Alors c'est quoi les défauts d'Xpress par exemple? Qu'est-ce que ça crée comme défaut typographique?
Les défauts d'Xpress, c'est que pour les travaux avancés, comme on dit, c'est-à-dire les travaux que font les meilleurs des graphistes, ils se retrouvent sur le même terrain. Donc ils font tous la même chose à Los Angeles ou à Séoul.
Oui, mais c'est quoi c'est quoi comme type
de... Ce sont des choses qui sont de pure mode. Et qui prive généralement l'auteur du graphisme à son identité propre. C'est ça le problème. C'est que quand vous prenez une affiche de Paul Collin ou une affiche de Cassandre ou une affiche de Savignac, ils ont un style particulier. Maintenant, dans l'informatique, les grands créateurs, ils sont très rares à avoir un style.
Et alors, est-ce que vous pouvez me résumer, ce qui est difficile, résumer le style Massin en quelques adjectifs?
Il n'y a pas de style Massin.
Ah.
Il n'y a pas de style Massin. Il n'y a pas de style Massin parce que je suis, bon, je me vante peut-être, mais je crois que je suis un des rares qui essaie de ne pas toujours faire la même chose. Je ne répéterai pas l'imaginaire, je ne répéterai pas Folio, je ne répéterai pas ceci. Non, je m'efforce et je suis constamment, c'est ça le travail du graphiste, je suis constamment influencé par l'extérieur, parce que je vois dans la rue, parce que je vois la télévision, par la danse, par un tas de choses. Bon. J'essaie. En fait, il n'y a pas de graphisme, ça n'existe pas. Il n'y a que des choses auxquelles emprunte le graphisme.
Massin, je vais vous demander, pour terminer cette émission, de vous livrer un petit questionnaire. Alors, un texte sans cesse relu, que vous n'arrêtez pas de relire.
Et alors ?
Eh bien, il faut que vous me donniez une réponse.
Bah, la réponse, c'est Proust.
La recherche ? Ouais.
La recherche.
Vous relisez la recherche en boucle.
En 40 ans, j'ai lu 7 fois entièrement la recherche. Bah, j'ai lu aussi toutes les œuvres de Proust. Hein.
Ouais.
Et mon chien s'appelle Charlus, c'est pas pour rien.
Ouais.
Le baron de Charlus. J'ai lu 7 fois la recherche.
D'accord.
À partir de 50 jusqu'à il y a quelques années.
Un texte que vous connaissez par cœur ?
Alors ça, j'ai pas suffisamment de mémoire.
Ah, vous avez la mémoire des lettres, mais pas de
non,
des textes.
Vous savez, Victor Hugo, il apprenait 150 vers par jour, chaque matin. Et on m'a dit aussi, j'ai bien connu la famille de De Gaulle, on m'a dit aussi que, enfin, Charles de Gaulle, j'ai bien connu, me disait que chaque matin, le général, par crainte de perdre la mémoire, apprenait je sais plus combien de,
ouais.
de vers. Bon,
ça, pas vous.
Voilà,
pas moi. Votre lettre préférée ? Est-ce qu'il y a une lettre que vous aimez parmi les lettres de l'alphabet, plus que les autres ?
Mon initiale.
Ah ouais,
j'en ai beaucoup parlé avec Roland Barthes, que j'ai bien connu. On a même failli faire un travail ensemble, mais ça peut être possible, parce qu'il était au Seuil,
ouais.
Et moi chez Gallimard, à une époque où les deux éditeurs s'arrachaient des auteurs étrangers.
Alors, pourquoi M alors ? Pourquoi vous avez parlé de M avec Barthes ?
Oui, parce que Barthes a fait un livre sur la lettre Z.
Ouais, ah oui, bien sûr.
Il a raconté Z Marca, ouais. De Balzac, etc. Donc, on avait le projet de, comme il m'avait dit, vous faites choix d'un paradigme, celui que vous voudrez.
Ouais.
Et j'ai dit, ça sera le M, pour ne pas faire comme Balzac, ça sera le M.
Et qu'est-ce que vous aimez dans le M ? Pourquoi le M vous plaît, à part le fait que c'est l'initial de votre nom ?
C'est difficile à dire, mais disons que. Comme j'ai l'esprit un peu baroque depuis 30 ans, j'ai découvert le baroque alors que je vis dans un paysage gallo-romain près de Chartres. Dans le baroque, il y a une dynamique qui est donnée par les pentes, les deux pentes, et il y a une stabilité, le classique, qui est donnée par les verticales.
Bon. D'accord.
Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que pour voir à l'instant l'italique, c'est qu'on a comparé le caractère dessiné à la main par... dessiné par Francesco Grifo, graphiste italien, en 1501, on dit qu'il avait emprunté à l'écriture de Pétrarque.
Ah.
Alors c'est peut-être abusant de savoir que Laure a écrit Pétrarque avec des caractères qui sont de l'italique, mais c'est complètement faux.
D'accord.
Les historiens de la Nouvelle Histoire ont trouvé que c'était une invention totale.
Alors, une police qui vous émeut plus que les autres ?
Ouh. Difficile à dire. Je dirais le Cochin, qui était un caractère de la fin du XVIIIe siècle, hein, et dans lequel j'ai pas lu Proust, mais j'ai refait des anthologies de Proust thématiques,
ouais.
Et c'est fait tout en Cochin. Donc, c'est un caractère. Comme tous les caractères anciens, ils ont tous été redessinés par des fabricants,
ouais.
Hein, aux alentours de 1920. Masterville, le Cochin, le Garamond, tous ces caractères ont été redessinés. Et l'informatique les a de nouveau redessinés, puisqu'elle a légèrement épaissi toutes les graisses, parce que de peur que les déliés ne se voient pas.
Un texte dont vous remettez sans cesse la lecture à plus tard.
Le mémoire de Saint-Simon.
Ah ouais.
Parce que j'ai lu des pages, ouais. Quand même, mais j'adore son style, etc. Mais je ne comprends rien dans toutes les intrigues.
Ah oui, le problème, oui, je comprends.
Toutes les intrigues qui racontent ça,
c'est
totalement.
Un texte que vous avez honte de ne pas avoir lu.
Ah, bah Saint-Simon.
Saint-Simon, d'accord, c'est le même. Un texte dont vous parlez souvent, alors que vous ne l'avez pas vraiment lu.
Oh là là. Bah, j'ai tout lu, j'ai lu Casanova.
Est-ce que vous avez lu tous les livres dont vous avez fait les couvertures ?
Ah non. Ah ça non. Et je suis pas le seul. Non, mais ça. Mais d'abord, il faut avoir le temps de tout lire. Hein. Or, à l'époque, au début de Folio, on a fait 500 livres. Donc
oui,
500
c'est vrai, en quelques
en
semaines.
En 6 mois.
Ouais.
Ça fait une couverture par jour.
Ouais.
Alors, je ne vois pas lire La recherche du temps perdu en une journée.
Quand même. Et comment est rangée votre bibliothèque, Massin ?
Alors, j'ai deux bibliothèques, j'en ai une pas très grande, avec seulement, je sais pas, 2000 volumes à Paris. Un appartement assez grand quand même. Et puis, il y en a environ 20 000 à la campagne. Ouais. Et ce sont toutes des bibliothèques thématiques. Alors, il y a l'histoire, il y a les livres de poche, il y a la poésie, il y a les voyages, puis il y a Folio, il y a l'imaginaire.
Et pour terminer, un auteur que vous détestez, parmi ceux que vous avez rencontrés, Aragon, vous l'aimiez ?
Ah bah Aragon, je dis beaucoup de mal. Dans le livre dont j'ai parlé, je dis beaucoup de mal de lui.
Ah, pourquoi alors ?
Écoutez, j'ai vécu 100 heures environ avec lui, et autant avec Elsa, soit séparément, soit ensemble. Et l'histoire des grands amours de... Évidemment, ils étaient connus âgés. Le grand amour de Louis pour Elsa, c'est un thème littéraire. Hein. C'est vraiment un thème littéraire.
Merci, Massa. Comme chaque jour, on ouvre une fenêtre à la lutte que mènent ici et dans le reste de la France les intermittents, précaires, intérimaires et chômeurs. Chaque jour, un texte, un titre. Aujourd'hui, la solidarité est un acte.
Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté, je n'étais pas catholique. Puis, ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester. Poème attribué au pasteur Martin Niemöller, 1942. Nous voulons qu'Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon, comme tous les directeurs de lieux, d'événements ou de manifestations, ayant connu des mouvements de grève de salariés, s'engage officiellement à embaucher en 2015 et pour un même volume d'emplois chacun des membres des équipes 2014. Les coordinations des intermittents et précaires seront en toutes circonstances rappelées aux directeurs de lieux, d'événements ou de manifestations, d'acter ainsi très concrètement leur solidarité envers les revendications des chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, stagiaires, seniors. Ce que nous le demandons pour tous. Rendez-vous aujourd'hui, 16 juillet, à 17h, à la gare centrale d'Avignon, pour un départ en action. John Malkovich.
Merci Massin d'être venu jusqu'ici discuter avec nous.
Ainsi qu'aux musiciens et aux diseurs.
Merci pour donc nous avoir éclairé sur le texte, les formes qu'il pouvait prendre, l'art de la typographie. Alors demain, on continuera un peu nos excursions en dehors de la question strictement théâtrale. On parlera des jardins, comment l'homme inscrit son histoire dans le paysage, avec Anne Aliment-Verdillon et Marianne Morvillès, qui sont archéologues et historiennes des jardins, qui travaillent d'ailleurs en ce moment ici sur le jardin du Palais des Papes. C'était Des idées sous les platanes, une émission préparée par Geneviève Méric. À la technique aujourd'hui, c'était Manon Houssin, Florent Layani, Étard Bouclifa, chargé de production, Jean-Christophe Perrin, réalisation Véronique Lamandour. Dans quelques instants, vous retrouverez On ne parle pas la bouche pleine, Alain Kruger. Et puis ici même, dans la cour de l'Université d'Avignon, sera enregistrée et diffusée en direct et en public la grande table d'Olivia Gisbel, la grande table d'été. Bon après-midi. Et à demain.